On est de retour, Olivier Paiement et FX Bénard avec vous jusqu'à 18h dans ce retour des sportifs. On y va d'un partant sur le banc, laissé de côté, start, bench, cut, que vous voyez défiler sur les réseaux sociaux assez souvent. Oli va de trois noms. On doit mentionner qui est notre partant, qui est sur le banc et qui est laissé de côté. Alors, et on vous invite à participer sur la messagerie texte 514-790-0919, aussi sur YouTube. Oli, tu peux y aller avec les trois premiers noms.
Trois noms complètement au hasard. Aucun nom entre ces trois noms-là.
T'es sûr qu'il n'y a
aucun lien entre ces trois noms-là, vous allez voir. Je commence avec Alexander Romanov, Kirby Dach et celui qui a signé un contrat historique la semaine dernière. Je parle bien de Frank Nazar.
Tu vois, le premier est pas facile parce qu'il y a un défenseur et deux attaquants.
Ouais.
C'est pas évident.
Non, c'est vraiment pas évident.
Je vais commencer. Ouais. Je vais y aller. Okay. Je mets comme partant. Là, faut que je compare les positions. Non, c'est plus complexe un peu.
C'est vraiment pas facile.
C'est plus complexe.
Là, on se rappellera, ces trois noms-là sont liés parce que Alexander Romanov avait été échangé pour le 13e choix, que le Canadien a ensuite échangé aux Blackhawks pour repêcher Kirby Dach. Avec ce 13e choix-là, les Blackhawks ont repêché Frank Nazar, qui la semaine passée a signé un contrat de 7 ans d'un peu moins de 6,6 millions de dollars par saison avec Chicago, malgré le fait qu'il a seulement disputé 56 matchs dans la Ligue nationale de hockey. T'es-tu prêt, là? Parce que moi, j'ai ma réponse.
J'ai comme partant Alexander Romanov.
Moi aussi.
J'ai sur le banc Frank Nazar et je laisse de côté Kirby Dach.
Moi aussi. Alexander Romanov, c'est la valeur sûre.
C'est un défenseur top 4. C'est un défenseur qui va chercher des grosses minutes, Oli. Pour moi, son rôle est beaucoup plus accru que les deux autres à l'heure actuelle. Frank Nazar, c'est un bon espoir. On a vu de très belles choses en fin de saison l'an dernier à Chicago. C'est pour ça que je le mets sur le banc. Kirby Dach, j'ai encore certaines réserves, souvent blessé. Dernière année à Montréal, il y aura tout à prouver cette année, dépendamment de son de quand est-ce qu'il va être disponible pour le Canadien, être à 110% pour effectuer un retour au jeu. Mais pour cette raison-là, je vois Frank Nazar sur le banc et je laisse de côté Kirby Dach.
Même chose pour moi. Les blessures à Kirby Dach font très, très peur. L'an passé, même avant sa blessure, c'était un joueur qui était énigmatique, qui donnait pas son 100% à tous les soirs, loin de là. Frank Nazar, très bonne saison recrue, 26 points en 53 matchs. Il a été très impressionnant aussi au championnat du monde, 8 points en 7 matchs avec les États-Unis. On fonde énormément d'espoir en lui à Chicago. Mais Alexander Romanov, c'est une valeur sûre présentement avec les Islanders de New York. Un défenseur défensif solide qui va jouer 23-24 minutes par match. Un gars qui est physique. À travers tout ça, est-ce que ça veut dire que le Canadien est pour le moment le grand perdant de cette transaction-là?
Faut dire que oui.
Oui. Oui.
Mais et ça va dépendre de la prochaine saison de Kirby Dach.
Exactement. Mais est-ce que le Canadien aurait repêché Nazar au 13e rang? Peu importe.
On le sait pas.
On le sait pas, mais ces trois noms-là vont éternellement être liés à cette transaction.
Et je comprends quand même à ce moment-là de Kent Hughes avoir fait cette transaction-là pour acquérir un jeune joueur talentueux qui s'était blessé, avec le potentiel, projection également. Frank Nazar, il faut le mentionner, a été invité au camp d'orientation de la formation américaine, contrairement à un Lane Hudson pour les Jeux olympiques à Milan en 2026, même si dans le cas de Frank Nazar, ne fera pas partie de l'alignement, d'après moi, en vue des Jeux olympiques pour la formation américaine. Mais c'était un bon premier, ça. Allez, vas-y avec le deuxième, je pense que le deuxième va faire réagir aussi.
OK, on y va avec trois défenseurs du Canadien de Montréal, possiblement les trois premiers, Noah Dobson, Lane Hudson et Caden Gooley.
Je vais mettre comme partant Lane Hudson.
OK.
Lane Hudson comme partant. Je vais justifier par la suite.
J'espère.
Sur le banc, j'y vais avec Noah Dobson et je laisse de côté Caden Gooley.
Donc, ton défenseur le plus responsable défensivement.
Oui. Sauf que je vais avec Lane Hudson parce que ce qu'on a vu comme première saison dans la Ligue nationale, ça nous indique qu'il va être un des meilleurs à sa position pendant des années dans la Ligue nationale. Noah Dobson a connu une moins bonne saison l'an dernier, mais dans un système de jeu qui l'avantageait très, très peu à New York. Je pense qu'on va connaître une nouvelle version de Noah Dobson, celui qu'on a vu il y a deux ans lors d'une très bonne saison avec les Islanders. Et Caden Gooley, même si le plus fiable défensivement parmi ces trois noms-là, faut dire que c'est un exercice pas facile à faire, là, mais j'y vais laisser de côté parce que j'ai encore certaines réserves. C'est un défenseur qui s'est blessé au courant des dernières années. Encore une fois, l'aspect blessure dans le cas de Caden Gooley, et ça m'indique que c'est peut-être celui qui va connaître la moins bonne carrière parmi ces trois défenseurs-là. C'est pour cette raison-là que je le laisse de côté. Mais lorsque Caden Gooley est en santé, il faut dire qu'il y a un impact direct dans la formation. Son apport est très important au Canadien de Montréal. Mais dans un exercice comme celui-là, je vais le laisser de côté. Je te laisse y aller.
On a encore un consensus, mon FX.
Même chose.
Ouais, je vais aller quand même. Ça reste que Lane Hutson, c'est celui qui a le plafond le plus élevé parmi tous ces joueurs-là. Faire 66 points en tant que défenseur recrue dans la LNH, c'est pas facile. Il le fait. Noah Dobson a déjà eu une saison de 70 points. C'est un gars qui est quand même un petit peu plus complet que Lane Hutson, mais je crois qu'offensivement, Lane Hutson est vraiment. Dans une classe à part.
Dobson a meilleur lancé sur réception pour comme arme sur l'avantage numérique. Ça peut faire aussi une différence. Mais je pense que si on y va en termes de projection offensive, Lane Hutson.
Exactement. Et Kaelin Gooley, c'est un général. C'est un joueur qui peut shut down à peu près n'importe quel attaquant de la Ligue nationale de hockey. Mais c'est toujours le fun des joueurs qui ont plus de upside offensif. Donc, j'y vais avec Hutson, Dobson et Gooley. Pour mon troisième choix, j'aimerais qu'on se projette plus aussi à long terme.
Parfait.
Et on n'y va pas juste dans le moment présent, sinon ça va être trop évident.
Ouais.
J'ai trois ailiers russes, peut-être liés, peut-être pas. Matvei Mishkov, Ivan Demidov et Kirill Kaprizov. Maintenant, on s'entend, tu me demandes aujourd'hui, Kirill Kaprizov est bien meilleur que ces gars-là, c'est même pas proche. Mais je veux qu'on se projette aussi à plus long terme pour savoir peut-être qui aura la plus belle carrière dans ces trois-là, etc. Donc Mishkov, Demidov, Kaprizov, c'est qui le partant? On met qui sur le banc et qui devrait être laissé de côté?
Si tu me dis ça, c'est que probablement qu'Ivan Demidov, tu le mets peut-être un peu plus haut quand tu me parles de projection. Parce qu'au final, c'est qui aura la meilleure carrière un peu en tant que tel ou dans son apogée qui sera le meilleur. Je vais quand même prendre Kaprizov comme partant. Je pense qu'Ivan Demidov, on va le voir de toute façon sur une saison complète, sa première dans la Ligue nationale. J'en parlais la semaine dernière avec Jake. Pour moi, Ivan Demidov, oui, il part comme favori pour le trophée Calder, mais contrairement à l'an dernier où Lane Hutson n'était pas le favori et finalement a mis la main sur la recrue de l'année, je pense qu'Ivan Demidov cette année, je le disais, pas prédiction audacieuse parce qu'il part comme favori, mais je pense que il va dominer la course au trophée Calder la saison prochaine. Je vais quand même acquérir Kaprizov partant, Ivan Demidov sur le banc et je laisse de côté Matvei Mishkov. Je pense qu'Ivan Demidov aura une meilleure saison recrue que Matvei Mishkov la saison dernière.
Ah,
il
oui?
est mieux entouré à Montréal qu'il l'était Matvei Mishkov avec les Flyers de Philadelphie. Il faut dire aussi dans le cas de Mishkov, a eu pendant une bonne majorité de la saison Tortorella comme entraîneur-chef. Ivan Demidov aura Martin Saint-Louis dans un système de jeu, je pense, qui peut mieux l'avantager.
Parce que malgré tout ce que tu viens de dire,
Mishkov,
c'était quand même 63 points l'an passé. C'est beaucoup, beaucoup. En temps normal, l'an passé, c'était une cuvée exceptionnelle pour le Calder. En temps normal, Matvei Mishkov aurait gagné le Calder la saison dernière. Il l'a pas fait parce que t'avais des Hutson, t'avais des Celebrity, t'avais des Wolves.
Mais il n'a même pas été top 3.
Exactement.
Matvei Mishkov.
Sinon, il aurait gagné. Tu penses qu'Ivan Demidov va faire plus que 63 points et tu penses qu'à long terme, il va être un joueur plus dominant que Matvei Mishkov?
Je pense que oui.
Intéressant. Intéressant.
As-tu le même que moi?
Ouais. C'est ça.
Même chose?
Ça marche pas mon affaire juste
parce que depuis tantôt, t'as essayé de m'envoyer des petites perches pour me challenger. Finalement, c'est les mêmes prédictions.
Par contre, je crois que cette saison, je crois pas que Demidov va faire autant de points que Mishkov. Comme j'ai dit, on se base sur le long terme.
Exact.
OK. Cette fin de semaine, je sais pas si t'as vu, mais Bleacher Report a révélé son Mount Rushmore des joueurs du Canadien au 21e siècle. Donc, c'est qui les quatre joueurs marquants du Canadien au 21e siècle? On avait Carey Price, on avait Piqué Subban, Andrei Markov et Sako Koivu.
OK.
Je vais essayer de décortiquer un petit peu plus les choix pour voir comment est-ce que ça a été fait. Donc, trois gardiens du Canadien au 21e siècle. Carey Price, Yaroslav Halak et José Théodore. C'est qui ton partant? Qui est sur le banc? Et tu laisserais qui de côté?
Pour moi, celui-là est quand même évident.
OK.
J'y vais comme partant à Carey Price. Partant à Carey Price.
Ouais, ouais, ça, longévité avec le Canadien. Pas besoin de débattre là-dessus.
J'y vais sur le banc, José Théodore. Parce qu'on semble oublier la saison 2001-2002 de José Théodore. Pour moi, il a été marquant. Je comprends le printemps à Lac, mais cette saison-là à Montréal, faudrait que je te retrouve les statistiques, mais le meilleur pointeur de l'équipe, je l'ai devant moi, c'était Yannick Perreault avec 56 points en 82 matchs. Il n'y a pas eu un marqueur de 30 buts chez le Canadien cette saison-là. Il avait été phénoménal devant le filet, José Théodore. Il a eu un impact cette saison-là. Écoute, pour remporter le trophée Hart et trophée Vizina,
mais fixe le printemps à Lac.
Cette saison, je comprends le printemps à Lac. Je le sais, ça a été. Je comprends le printemps à Lac. Mais pour moi, la saison de José, puis En fait, c'est l'impact que ça a eu pour le Canadien de Montréal. Est-ce que tu te rappelles plus de José Théodore cette saison-là ou tu te rappelles plus du printemps à Lac? Ça se peut que tu te rappelles plus du printemps à Lac.
Je me rappelle plus du printemps à Lac.
En fait, en toute
j'avais
sécurité,
deux ans quand Théodore a gagné le Hart.
Faut le dire qu'à l'âge que j'ai, je me rappelle beaucoup
mais
plus
non,
du printemps
mais écoute,
à Lac.
Mais avait battu coup sur coup tout seul parce que le Canadien n'avait pas un gros club non plus cette année-là. Les champions du trophée du président, les Capitals de Washington, et les champions en titre de la Coupe cette année, les Penguins de Pittsburgh. Et ils faisaient ça avec du 40-50 arrêts par match. Oui, après ça, bon, ils ont perdu contre les Flyers en finale de l'Est, mais il a mis l'équipe sur ses épaules et il les a transportés jusque-là. José Théodore, qui avait battu quand même les Bruins en série cette année-là, malheureusement, ça s'est terminé au deuxième tour. Mais pour moi, juste à cause du printemps à Lac, je le mets devant Théodore.
Mais Oli, l'année où José Théodore a tout gagné, là, ces trophées-là, là. Yannick ouais. Perrault, 56 points. Le deuxième meilleur pointeur, Richard Zednik, 44. Oleg Petrov, 41 points en 75 matchs, 24 buts. Offensivement, le Canadien, là, j'ai pas la saison du printemps à Lac, là, mais en 2001-2002, là, cette formation-là, c'était désastreux. Là. C'était pas José Théodore devant le filet qui fait ces accomplissements-là. Le Canadien est pas là du tout. Là. Il est pas dans la course pour participer aux séries éliminatoires
oui,
et tout ça. Là.
Oui, mais de la même manière que si Yaroslav Halak avait pas mis le Canadien sur ses épaules lors du printemps 2010, l'équipe ne bat pas les Capitals et elle ne bat pas les Penguins. Donc, rendu là, est-ce que tu valorises plus les séries ou la saison régulière? Dans mon cas, je valorise plus les séries.
C'est bon. J'aime ça.
OK, on continue sur le thème de ce fameux Mont Rushmore.
Fallait au moins d'avoir un où on n'était pas d'accord.
Ben ouais, il faut bien. Chez les défenseurs. Piqué Subban et Andrei Markov sont inclus dans le Mont Rushmore.
Ouais.
Et j'ai ajouté Shea Weber. Qui tu mets comme partant? Qui est sur le banc? Et qui tu laisses de côté?
Là, c'est pas pour la carrière. On parle de l'impact avec le Canadien.
On parle avec le Canadien de Montréal lors de leur passage au 21e siècle.
Je vais aller avec Shea Weber comme partant. Hey! Je t'explique pourquoi.
Oh mon Dieu.
C'est pas facile.
Ben, il est même pas sur le Mont Rushmore de Bleacher Report.
J'hésite. Oh. Non, mais c'est parce que pourquoi Nick Suzuki est un aussi bon capitaine maintenant?
Oui, parce ça fait partie. Un gars qui prêche par l'exemple. Ça fait partie
de sa personnalité de prêcher par l'exemple et tout ça. Mais il y a eu qui comme mentor Nick Suzuki durant le printemps où le Canadien, en fait, c'était plus l'été là parce qu'on était en pandémie où le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. Mais là, je vais y aller avec la longévité. Ok. Hey, c'est pas facile. Je vais te dire franchement. Là,
non, puis là, dis-moi pas que tu laisses de côté Piqué Subban. Est-ce qu'on oublie que le gars il a gagné un Norris?
Oui, durant une saison lock-out.
Ben, il a quand même fait. Est-ce
durant
qu'on
une saison lock-out,
quand le Canadien faisait ses parcours éliminatoires, c'était lui le meilleur pointeur, c'était lui le leader
oui,
sur la glace.
Oui, il était explosif, il était divertissant, il était...
Impact dans la communauté, Madame Béliveau, comment?
Mais est-ce que Piqué Subban a été capitaine du Canadien? Est-ce qu'on lui a préféré Max Pacioretty? La réponse, c'est oui.
Et est-ce que Max Pacioretty était un bon capitaine?
Non, la réponse, c'est non. Mais est-ce que Piqué Subban en aurait été un meilleur?
Ben, peux-tu avoir fait pire que Pacioretty?
Pas vraiment. Je vais quand même y aller comme parce partant. Que OK, je vais y aller avec la longévité, OK?
OK.
Andrei Markov est mon partant pour tout ce qu'il a fait à Montréal durant toutes ces années. Je vais y aller comme partant Andrei Markov. C'est pas un choix flashy, c'est pas un gars... Mais Markov, tous les services qu'il a rendus aux Canadiens, la longévité avec l'organisation et tout ça, je vais comme André Markov comme partant. Parce que là, c'est l'impact avec les Canadiens.
Oh, et puis il a joué 990 matchs.
Chez Weber sur le banc, je laisse de côté Piqué Subban.
Sincèrement, FX, je pensais pas que tu faisais partie de ce fameux club des Subban haters.
Arrête, je vois ça passer, c'est Raymond sur la messagerie tech. Je suis pas un Subban hater, au contraire. Subban me fait lever de mon siège à de multiples reprises.
Voilà.
Mais j'ai
André
pas
Markov,
le choix.
Te faisais-tu lever de ton siège? Chez Weber, te faisais-tu lever de ton siège?
Chez Weber, c'est tout le leadership qui amenait dans cette chambre-là. Il était là juste avant la reconstruction. Il a croisé les Nick Suzuki, les Cole Caulfield. Il a été un mentor pour Nick Suzuki. J'ai pas le choix d'y aller avec Chez Weber.
Puis le Norris, on l'oublie?
Saison écourtée, Oli, lockout.
Ouais, puis
je comprends. Il y a eu sa meilleure saison, il l'a eu à Montréal, Piqué Subban. Il l'a pas eu à Nashville.
Ben, il a aussi été finaliste à Nashville pour le Norris.
Oui, mais il a remporté
Piqué
quand même
Subban
le Norris.
Piqué Subban a eu toute une carrière. Et ses meilleurs moments, c'était à Montréal. Ça a été un joueur transcendant avec le Canadien de Montréal, qui a soulevé les foules, qui a soulevé les passions, qui a gagné le Norris. Ça court pas les coins de rue des défenseurs qui gagnent le Norris.
Dominique, sur la messagerie texte, FX, je te renie.
Moi aussi, là. Vraiment. Je sais même plus si j'ai le goût de continuer.
Vas-y avec le prochain. Hey, là, je regarde le temps, okay. Mais allons-y. On va y aller rapidement. Là.
On y va avec les centres. On a Saku Koivu, Nick Suzuki et Thomas Plekanec. Pourquoi Thomas Plekanec? Parce que c'est lui le joueur qui a joué le plus de matchs et qui a récolté le plus de points avec le Canadien depuis 2000. On l'oublie, mais le col roulé, Thomas Plekanec était pendant longtemps un symbole de constance avec le Canadien de Montréal.
Ouais, a dépanné beaucoup comme premier joueur de centre à une époque où le Canadien n'avait pas de joueur de centre, jouait beaucoup aussi sur le deuxième trio, était utilisé dans toutes les facettes du jeu. Saku Koivu, je pense qu'on est jeune pour comprendre ce qu'il a eu comme impact à une période où le Canadien offensivement était très diminué, où il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Nick Suzuki, je veux dire... Il est ignoré dans ce Mont Rushmore parce qu'on prend depuis 2000. Mais il y a quand même une expérience. Il y a quand même plusieurs saisons à Montréal, quand même. Il y a ce parcours éliminatoire-là. Il est capitaine du Canadien à l'heure actuelle. Il y a une saison de 89 points. T'sais, les deux autres n'en ont pas des saisons comme ça à Montréal.
En termes de points par match, c'est super serré. Saku Koivu a récolté 0.83 points par match avec le Canadien dans les années 2000. Nick Suzuki est à 0.82.
Mais Saku Koivu le fait plus tard dans sa carrière parce qu'il a commencé à la fin des années 90.
Exactement.
Nick Suzuki, sa saison recrue, c'était en 2019-2020. Plus facile d'accumuler des points quand tu as plusieurs années d'expérience déjà dans la Ligue nationale.
Et ça reste que sa saison de 89 points qu'il vient juste de connaître, c'est la meilleure saison pour un joueur du Canadien dans les 25 dernières années.
Je vais y aller comme partant. Partant Nick Suzuki, sur le banc, Saku Koivu, laissez de côté Thomas Plekanec. C'est mon choix.
Ouais, moi aussi. C'est dommage pour Thomas, là, qui a vraiment donné de fiers services aux Canadiens. Mais c'était pas le plus... voilà. OK, on va terminer rapidement avec les ailiers. On a trois gars. Aucun de ces trois gars-là a été inclus sur le Mont Rushmore des joueurs du Canadien des 25 dernières années. On a le capitaine Max Pacioretty, Cole Caulfield et Alex Kovalev. Peut-être la plus difficile des trois. Parce que chacun ont leur force, ont leur faiblesse, ont leur reproche, ont leur grand moment. En termes de points, on va y aller en termes de buts parce que ce sont des marqueurs. C'est Pacioretty qui en a le plus à 226. Évidemment, Kovalev a seulement disputé quelques saisons à la Montréal. Il y a 103 buts. Alors que Cole Caulfield... Cole Caulfield, c'est 118 buts avec le Canadien.
Aïe, aïe.
Je pense qu'il faut que tu aies Pacioretty. Pour l'ensemble de l'œuvre, il faut que ce soit Pacioretty ton partant.
Parce qu'il a été capitaine, mais on vient de le mentionner.
Parce qu'il a été capitaine, il y a eu des saisons de 35, presque 40 buts.
Mais tu viens de le dire que ça a été un des pires capitaines du Canadien.
Je le sais, mais ça reste que c'était un gars qui a eu combien de saisons de 30 buts avec le Canadien de Montréal? Il a mis
dedans. C'est le meilleur marqueur de 40 buts à l'avoir jamais fait avec le Canadien. Attends. Je vais y aller. Max Pacioretty, j'ai pas le choix de le mettre assez haut dans cette liste-là. Mais Alex Kovalev, il était tellement électrisant.
Tu sais, Pacioretty, c'était 33, 39, 37, 30, 35 buts avec le Canadien.
Kovalev, c'est drôle parce que sur la messagerie texte, on est tellement... Chez les auditeurs, on est tellement pas dans les mêmes eaux, là. Tu vois les projections, les prédictions rentrées,
C'est parce que Kovalev, l'échantillon était tellement court, tu sais. Moi, je vais y aller Pacioretty, Kovalev, Caulfield.
J'ai la même chose.
Bon, on finit ça en beauté.
J'ai la même chose.
Après les Zanry que tu as mentionné plus tôt.